that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN. Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good après un super week-end ensoleillé où il y a eu plein de vie, plein de rencontres, plein de joie et un super forum, organisé par les copains du groupe Ebra. Ici on agit, le groupe Ebra c'est l'Est républicain, Vosges Matin, tout ça, nanana. Ils ont organisé un grand forum ouvert aux professionnels et au public, ici on agit, autour de la transition environnementale, de la transition énergétique, mais aussi de la transition de la société. Et un des acteurs économiques majeurs de ce secteur sur notre territoire, c'est un groupe privé qui s'appelle Veolia. Ils agissent autour de l'énergie, des déchets, de l'eau, et l'entité déchets majeure dans la transformation, dans l'énergie aussi, du coup on en parlera. Son directeur régional a accepté de venir poser un petit peu pendant 20-25 minutes ses valises chez nous pour nous raconter son parcours, le choix d'un groupe présent au CAC 40 et en même temps acteur au plus près de la réalité de la transition énergétique. Merci à lui, c'est Luc Petit, l'invité de I Feel Good.
So good, so good, I got you.
Bonjour Luc.
Bonjour Christophe.
Alors, c'est un peu de la provoque bien évidemment, hein, mais on s'attendait à voir le patron, un représentant d'un grand groupe du CAC 40, arriver avec la grosse bagnole et tout ça. Et Luc Petit, c'est pas tout à fait ça. C'est un mec qui a fait un choix de travailler pour un grand groupe, effectivement, présent au CAC 40, qui travaille sur la transition. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce groupe ? Qu'est-ce qui te donne envie d'agir pour cette entreprise ? Et est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça respecte tes valeurs ? Est-ce que travailler pour un grand groupe comme ça, présent dans le CAC 40, voilà, ça peut être le symbole d'une puissance économique, est-elle au service de la société ?
Alors oui, c'est une vaste question, effectivement. Moi, je travaille clairement chez Veolia parce que ça correspond à mes valeurs et que ça donne du sens, en fait, à mon activité professionnelle. Et ça va au-delà de ça. J'ai bientôt 50 ans, là, je les aurai en octobre. Et aujourd'hui, j'ai besoin de ça. Je pense que beaucoup de gens, maintenant, ont besoin d'avoir un travail qui représente quelque chose à leurs yeux et aux yeux des autres. Dans ma carrière, j'ai connu d'autres expériences. Hein. J'ai testé des périodes, même en association caritative, ou dans des entreprises de petite et moyenne taille. Et aujourd'hui, c'est chez Veolia que je me sens le plus utile, parce qu'en fait, avec les moyens du groupe et les contrats qu'on a avec les collectivités locales ou les entreprises, aujourd'hui, on a une vraie force de frappe positive. On est capable d'amener des solutions et d'avoir un impact positif à la fois sur le côté social et le côté environnemental. J'avais le débat, justement, c'était intéressant, vendredi, avec un élu qui est venu me voir au salon Ici on agit, et qui me dit « Je comprends pas que la gestion de l'eau soit gérée par des groupes du CAC 40, ça devrait être un bien public, et donc ça devrait être géré par une régie. »
Donc on est bien d'accord, c'est un bien public.
Oui, mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on vend, c'est une prestation de traitement et de distribution de l'eau. En fait, on ne capture pas l'eau, on ne l'utilise pas pour nos fins personnelles. En fait, on la distribue, et pour les déchets, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on amène des solutions qui sont tellement complexes aujourd'hui, qu'à une échelle locale, on ne peut plus le faire. Quand il faut traiter des polluants éternels, ce qu'on appelle les PFAS, ou qu'il faut traiter des déchets par incinération avec traitement de fumée, on parle de centaines de millions d'euros d'investissement, et ça demande des technicités que des communes ou des communautés de communes ne peuvent plus amener. Et donc moi, d'un point de vue perso, ça m'intéresse énormément, en fait, d'être chez Veolia et de pouvoir déployer ça et de faire progresser des choses.
Est-ce que, alors pour prolonger la question de l'élu, parce qu'on voit bien à travers ta réponse qu'il y a besoin d'un savoir-faire technologique, scientifique majeur et important, est-ce que en interne, alors si reconnaissons, admettons le principe qu'on ait besoin de passer par la force d'un réseau national et européen et même international en l'occurrence, qu'on ait besoin de ce savoir-faire technique qu'on ne peut plus avoir dans une collectivité aussi honorable soit-elle. Est-ce que en interne, est-ce que donc clairement, est-ce que chez Veolia, on a des process, est-ce qu'on a des lois européennes, françaises qui font que vous avez aussi des comptes à rendre? Et quels sont ces comptes à rendre pour que, bah, justement, des collectivités territoriales, parce que je comprends la question des élus qui veulent garder quand même un bout de ce bien commun qu'est l'eau, pour garantir une mission de service public.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, dans tout ce qu'on fait, il y a toujours de la traçabilité et de la transparence. De par les contrats, notamment les gros contrats qui sont des délégations de services publics ou des concessions, on a des rapports journaliers, hebdomadaires, des rapports annuels à donner. On a souvent des entités juridiques dédiées qui permettent d'isoler les résultats financiers. Et donc la transparence, elle est là. Et ça vient compléter les régies. Il y a toujours de toute façon une partie des choses qui sont faites en régie. Et donc nous, ce qu'on apprend,
c'est régie, ça veut dire prestations complémentaires. La régie, c'est géré par la collectivité territoriale. Oui. La DSP, ça veut dire que c'est délégation de service public. Ça veut dire que la collectivité délègue à un prestataire.
Exactement.
Le suivi, la gestion et l'organisation.
Exactement. Et nous, quoi qu'on fasse, après, on amène les preuves de ce qu'on fait. Et on est effectivement contrôlé, alors par les clients. Après, on est aussi contrôlé de façon plus large par les autorités comme l'ADREAL, qui vient de contrôler par exemple la conformité de nos installations à l'environnement. Le système est très encadré et c'est nécessaire, et c'est une bonne chose, pour être sûr que ça se passe bien.
Mais la question qui pointe derrière souvent, c'est l'argent, c'est le coût. Oui. Alors on a vu, est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a eu des choses qui se sont faites avant et qu'aujourd'hui la loi a changé, que les ratios ont changé aussi, que la transparence a évolué, au niveau, y compris au niveau financier?
Alors, en fait, cette demande de transparence, ça correspond à une évolution générale des choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la traçabilité de la transparence, c'est quelque chose qu'on demande dans tous les métiers, qu'on demandait peut-être moins il y a 30 ans ou 40 ans. Donc, c'est une évolution normale. En termes d'équilibre financier, nous, effectivement, on nous dit souvent, on remonte de l'argent aux actionnaires. Oui, mais c'est parce que les actionnaires nous confient de l'argent pour investir et ils prennent un risque. Donc, c'est normal d'en remonter également. Et c'est contrebalancé par le fait que comme on a un effet de volume et une expertise qui nous font faire des économies, l'un dans l'autre, en fait, le prix est le bon. Voilà, c'est ça qu'on met en avant.
Et justement, alors, je voulais qu'on traite cette partie, parce qu'on reçoit un affreux du CAC 40, donc il faut l'interroger sur l'affreux du CAC 40, qui commence à répondre. Merci beaucoup, Luc, de prendre
temps. Je prendrai un cigare après l'interview.
Et la pédagogie. Mais du coup, alors justement, tu dis, cette force d'action que l'on met au service des territoires, est-ce que tu peux nous donner deux, trois exemples locaux à Nancy ou proche de Nancy, de justement ce savoir-faire industriel, ce savoir-faire technologique qui va rendre, apporter une réponse à la transition énergétique dont on a besoin?
Oui, alors je peux vous citer différents types d'exemples. Si je commence par un exemple au privé, on est partenaire de Solvay dans l'objectif de décarbonation donc de la soudière qui est à Dombasle. On a un projet qui s'appelle Dombasle Énergie. Historiquement, c'est un site qui fonctionne au charbon, puisqu'on est en Lorraine et qu'il y avait un gisement local. On est en train de participer donc avec Solvay à la construction d'une nouvelle chaufferie qui va remplacer le charbon par du combustible solide de récupération. Donc c'est du fioul à base de déchets qui permettra de diminuer par deux les émissions de carbone fossile. Donc c'est un projet énorme, c'est plus de 220 millions d'euros de construction.
220 millions d'euros
de construction. Ouais, et 20 ans de contrat. Et donc nous, ce qu'on amène, c'est la capacité d'un groupe de sourcer 350 000 tonnes de déchets depuis 7 lieux de production et différents départements, ce qui nécessite, je dirais, la force d'un groupe comme Veolia pour amener en fait et préparer ces déchets et après être capable dans un deuxième temps de gérer une usine qui est une usine en feu continu. Donc 7 jours sur 7, 24-24, très complexe à piloter.
Cet exemple de Dombasle est particulièrement parlant, parce que tu dis on a besoin de cette source qui vous amène des déchets, c'est ça, l'origine des déchets,
exactement,
pour devenir combustible.
C'est du déchet industriel banal qu'on vient préparer et normer de façon à ce que le déchet devienne un fioul. Ça remplace le charbon ou ça remplace le gaz. Ça a une caractéristique chimique et de valeur calorifique qui va être stable et qui fait un excellent fioul en fait.
Et donc ça, il n'y a qu'un groupe qui collecte bien au-delà d'une sphère purement métropolitaine ou même départementale. On est sur quoi,
national.
Sur le Grand Est là, on est sur
Là on est sur l'Est de la France en fait. Et effectivement le groupe Veolia, c'est un groupe international, c'est 45 milliards de chiffre d'affaires, 220 000 collaborateurs. Et en France, sur la partie déchets, on a 10 000 collaborateurs et on a cette capacité à amener les volumes et après à gérer les aspects techniques de traitement des fumées, de gestion des effluents et ainsi de suite. On amène tout ça.
Quel est ton kiff à toi, Luc, dans tout ça, dans ces projets-là ?
Alors, moi, j'aime bien le changement, j'aime bien le challenge. Donc déjà, tous ces projets-là ont un niveau de complexité qui est très stimulant intellectuellement. Il faut réfléchir à beaucoup de sujets et être capable de résoudre beaucoup de problématiques. Donc d'un point de vue, matière grise, c'est très, très agréable à faire. Et après, il y a une question de sens, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un impact positif quand on s'implique dans ces projets-là. Et au niveau social et au niveau environnemental, on peut aider à accélérer les transformations. Et ça, c'est ça qui, moi, me fait me lever le matin, quoi.
La transition est un domaine éminemment complexe, énergétique, justement, parce que ce que l'on peut vouloir de bien en menant telle action peut s'avérer peut-être pas si bon que ça sur un autre pendant de l'approche environnementale. On peut vouloir diminuer le diesel, mais la production électrique, c'est pas forcément en tant que tel, voilà, etc. etc. Comment un groupe comme ça, comme le vôtre, Veolia, approche cette vision globale? Comment vous vous mettez en ordre de marche pour avoir une vision un peu globale de la transition, qui serve bien sûr vos intérêts, mais qui serve aussi bien sûr la transition et qui soit le justificatif de l'action vers la transition énergétique?
Alors, on a une approche donc, qui est globalisée et qui est intégrée. Par exemple, les équipes en charge de la décarbonation, donc il n'y a pas que la décarbonation dans les sujets environnementaux, il y a les sujets de biodiversité, de ressources, mais la décarbonation, c'est quand même un sujet fort par rapport au CO2. Par exemple, dans le groupe, les équipes de décarbonation sont intégrées à la direction financière de façon à ce que tout soit intégré et que quand un projet fasse, on prenne en compte les sujets environnementaux. Parce qu'en fait, ça serait trop facile autrement de fonctionner par silo. Il arriverait un moment où on n'aurait plus d'argent pour le faire et parce que ça avait été validé par un autre service. Nous, on a un fonctionnement intégré pour justement être sûr que les projets avancent sur ce qu'on appelle, nous, la performance plurielle, c'est-à-dire en fait qu'on intègre les sujets sociétaux, les sujets environnementaux, et pas seulement que les sujets financiers. Et donc, pour vous donner un exemple, on essaye après, une fois qu'on a fait cette analyse et qu'on a intégré les objectifs, d'assumer notre responsabilité. En Europe de l'Est, par exemple, on avait des chaufferies qu'on avait récupérées historiquement au charbon. On aurait pu les revendre à des petits prestataires pour se débarrasser de cette problématique. On a fait le choix d'investir et de les passer soit au gaz, soit à la biomasse, soit au combustible solide de récupération, pour en fait assumer notre rôle d'acteur majeur de la transformation écologique.
Ça veut dire aussi que vous travaillez en interne, donc beaucoup avec une transversalité. Est-ce que les partenaires type, comme on les a vus ce week-end, CNRS, Université, sont des acteurs avec qui vous contractez de la recherche, vous contractez de l'innovation?
Oui, tout à fait. Par exemple, vendredi matin, notre directeur général France, là, Jean-François Nogrette, a signé une convention avec la région Grand Est de partenariat sur des sujets de réflexion et R&D sur la transformation écologique. On travaille avec l'université, on travaille avec des entreprises locales, des startups, et on a besoin de ça. Parce que nous, à partir du moment où on est un gros acteur, on est des fois moins bien placé pour voir les signaux faibles et l'innovation qu'on retrouve plus dans des milieux universitaires, dans des milieux de la recherche. Et donc on a besoin de ces partenariats.
Pardon, je me rends compte que ça fait presque un quart d'heure qu'on parle. On est orienté vers la transition, mais c'était la force de ce week-end, mais on n'a pas forcément parlé de votre métier, du cœur de métier, par exemple pour les déchets.
Oui.
C'est quoi?
Alors, nous, le cœur du métier dans les déchets, en fait, c'est de collecter et de traiter donc l'ensemble des déchets émis par nos activités domestiques ou industrielles, en essayant de privilégier la prévention et le réemploi, et quand c'est pas possible, de faire du recyclage, de faire de la valorisation matière, de faire de la valorisation énergétique, et in fine du stockage, donc dans l'enfouissement. Et donc des choses qui peuvent paraître simples sur le principe sont de plus en plus compliquées, parce que les réglementations évoluent, et parce que ça représente des volumes et des contraintes qu'on comprend quand on connaît bien le métier, mais qui sont pas forcément visibles par des néophytes. C'est pour ça que, par exemple, on fait souvent des visites d'installation. On le refera là aux prochaines journées du patrimoine. On fait des journées portes ouvertes. L'usine de valorisation énergétique de Ludre sera ouverte au grand public et ça nous permet de montrer justement ce que c'est que le métier, ce que c'est en termes de volume, ce que c'est en termes de complexité. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines journées.
Journée de patrimoine, c'est l'occasion d'aller découvrir le patrimoine industriel et donc de transformation de l'énergie. Alors ça veut dire que aussi, ça s'explique très concrètement dans la vie des gens. De plus en plus, on a plus de poubelles,
oui.
On trie de plus en plus parce que ça facilite votre travail, mais c'est aussi une obligation de filtrer, de trier pour pouvoir recycler. Comment on recycle de plus en plus aujourd'hui? Est-ce qu'on peut évaluer l'évolution de la part de produits recyclés, retransformés? Est-ce que c'est des chiffres qu'on peut avoir, ça?
Ah oui, un exemple assez parlant, c'est que l'usine donc, d'incinération de Ludres, qui a une capacité d'à peu près 100 000 ou 110 000 tonnes, a été conçue au départ que pour les besoins de la métropole du Grand Nancy. Aujourd'hui, la métropole n'amène plus qu'environ 62 000 tonnes de déchets résiduels. C'est-à-dire que tout ce travail, le delta d'à peu près 40 000 tonnes, il est lié à une diminution des volumes, parce que les gens consomment moins ou consomment mieux, et les gens recyclent de plus en plus. Là, la métropole en ce moment met en place une collecte, depuis l'an dernier, de biodéchets. Donc on demande aux gens d'extraire la partie fermentescible de leur cuisine, et ça vient compléter ce qu'on a déjà au niveau des sacs jaunes, au niveau des déchetteries. Il y a beaucoup de déco-organismes qui se sont montés, comme par exemple Ecomaison ou Citeo, qui ont un système pollueur-payeur, donc ils collectent des taxes auprès des producteurs et qui aident les collectivités à recycler. Et donc, plus ça va, plus on a de déchets de recycler, sachant que le déchet est une ressource énorme. En fait, il y a de l'or dans le déchet. On peut refaire du papier, on peut refaire du métal, on peut refaire des matériaux de construction. Donc, on a besoin de recycler et donc c'est vers ça qu'on va. Moins de déchets ultimes et plus de déchets valorisables.
C'est quand même une période formidable en ce moment, ce que l'on vit justement au titre de la transition et tu es au cœur du réacteur. Ce qui nous invite quand même à une petite pause musicale, ça nous fera pas de mal. On se retrouve avec Mickey 3D et juste après, rencontre avec le choix qu'a fait Luc Petit d'une carrière particulièrement dynamique.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont, pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça, t'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens, mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allonger dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt, au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petite l'histoire de l'être humain, c'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. va pas mourir de rire. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais c'était Mickey 3D, respire, mais bien sûr. Et quelle intro, elle m'a arraché les oreilles. Heureusement, on va retrouver avec bonheur Luc Petit de Veolia.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Monsieur Petit, vous pouvez répondre du fait qu'on se soit arraché les oreilles sur l'introduction. Quelle est cette idée de choix musical, monsieur Petit ?
Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup la rythmique, c'est une chanson de... de 2002, qui est malheureusement énormément d'actualité. Hein. C'est une chanson qui n'est pas que rassurante, mais qui nous rappelle un peu sur l'urgence climatique et environnementale. Et du coup, c'est une chanson que j'aime bien.
Alors oui, justement, parce que alors d'accord, ok, d'accord, mais j'aime bien le titre de la manifestation. C'est ici on agit, quoi. Alors oui, il faut tirer les sonnettes d'alarme, mais de temps en temps, il faut savoir un petit peu. Faire interpeller pour pouvoir faire bouger. En même temps, c'est quand même mieux quand on agit. Et on terminera sur le volet Veolia, si tu veux bien, Luc. Veolia, c'est dans le monde. Tu as évoqué
20 000
collaborateurs.
20 000 collaborateurs.
Chiffre d'affaires.
45 milliards.
45 milliards. Répartition des activités.
Alors, c'est eau, énergie, déchets. On est... très présent en France et en Europe, puisque c'est le bastion historique, mais on est de plus en plus en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient, là où il y a des besoins. En ce moment, il y a des besoins, par exemple, en désalination de l'eau. Et donc, il y a pas mal de pays secs, arides, qui ont besoin de ce genre de technologie pour avancer.
On ne peut pas dire que c'est une entreprise française, Veolia, maintenant, on ne peut plus dire.
Alors, c'est une entreprise, oui, vraiment, dont le siège est en France, effectivement, avec un capital maintenant qui est divers. Mm-hmm.
Quand on est au CAC 40, ça veut dire qu'il y a une répartition de l'activité d'actionnaires qui sont dans le monde entier.
Oui.
Des petits actionnaires, des gros actionnaires, comment ça se...
Oui, de toute taille. En fait, le premier actionnaire maintenant, c'est finalement les salariés, puisqu'on a un programme d'actionnariat salarié. Et après, on en rentre des nouveaux. Récemment, il y a eu la Caixa de Barcelona qui est rentrée dans le capital. Puisque c'est un partenaire que nous avons en Catalogne. Et donc voilà, donc on a après un conseil d'administration et une série d'actionnaires.
C'est les salariés le premier actionnaire quand même.
Oui, ouais, c'est... oui, tout à fait. Ouais. C'est une façon justement d'impliquer positivement et de donner un retour à nos salariés sur le fonctionnement du groupe.
Donc là aussi, on voit bien l'évolution aussi des structures, y compris de ces grosses sociétés comme Veolia. Luc, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai été touché par cette rencontre. Tu m'as dit, j'ai fait le choix de ce groupe parce que j'avais envie d'être utile. Le petit Luc, il a grandi où et comment il a forgé ce socle de valeurs qui l'ont amené à choisir une telle entreprise et un tel projet professionnel?
Alors moi je suis sur Nancy depuis un an et demi, mais je suis plutôt originaire de l'Ouest, hein. Je suis né à Brest, j'ai pas mal bougé parce que mon père travaillait chez EDF et donc déménageait régulièrement. Donc j'ai fait Brest, Quimper, Tours-Laval, j'ai fait mon collège lycée à Laval et après j'ai été étudiant à Rennes et à Nantes. Et donc ce qui m'a quand même formé dans un premier temps, c'est ma formation d'ingénieur à Nantes, hein. J'ai beaucoup aimé cette période-là. Bon déjà j'ai rencontré ma femme, donc c'était un bon démarrage.
Ça a très bien formé ça.
et c'est le type d'environnement dans lequel on peut s'investir dans des associations. J'avais des valeurs qui étaient liées à mon éducation, une formation un peu plutôt religieuse on va dire, qui m'a passé mais qui sont restées des valeurs quand même en moi. Et donc en fait quand on se retrouve en école d'ingénieur ou pareil en entreprise, il y a des choses qu'on a, le côté social par exemple, si on l'a eu en tant que ado, après on le garde, et donc en fait je l'ai développé en école d'ingénieur et puis après par la suite dans mes différentes expériences professionnelles, et je pense que ça restera et c'est ce qui fait aujourd'hui que je pense faire quelque chose d'utile.
Alors, l'école d'ingénieur qui épouse les valeurs sociales, comme tu dis, ça se traduit par quoi alors?
C'était
quoi l'école d'ingénieur? C'était quelle école?
École des mines de Nantes. École des mines de Nantes. Donc moi, j'étais président du bureau des élèves et on organisait des choses. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de toute façon maintenant dans les écoles. Hein. Je vois mes enfants qui sont étudiants font beaucoup d'activités en complément des cours avec. Des missions humanitaires, avec des missions humanitaires, avec des choses sociales, ils font des maraudes, ils font de la vigilance, par exemple sur la diversité, sur le sexisme, ainsi de suite. Et donc c'est une première expérience, je dirais, en sortie d'école. De ce genre d'action positive.
Avec des stages aussi, tu me disais, des stages qui m'ont ouvert sur le monde.
Oui, j'ai fait un stage au Venezuela, par exemple, qui était une première expérience. Je me suis fait braquer avec un flingue sur la tempe.
Ah oui.
On m'a volé mon sac, mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend la vie. Mmh. Je m'en suis bien sorti. Et après, entre ça et les différents pays, on comprend mieux comment fonctionne la France et comment on fonctionne, et on avance.
Patron aujourd'hui de la partie déchets, valorisation déchets pour le Grand Est, et puis en 2008, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça quand même, tu plaques toute ta progression de carrière, donc 14 ans après avoir entamé cette école d'ingénieur, tu étais parti sur des rails qui vont bien avec ton épouse, la famille, tout ça, et tu plaques tout, qu'est-ce qui te fait plaquer tout ?
Eh bien, j'étais déjà dans le domaine des déchets et j'aimais beaucoup mon travail, mais en fait nos enfants qui avaient 7 ans, 6 ans et 4 ans, commençait à grandir et on avait envie d'aller à l'étranger, ce que je ne pouvais pas faire avec mon entreprise. Et ma femme, elle, a eu l'opportunité de trouver une mutation dans le cadre de son groupe à Londres. Et donc on est parti s'installer là-bas et c'était une excellente décision.
Quel risque tu prenais quand même ?
Un risque mesuré, hein, parce qu'en fait après, j'ai repris une formation là-bas, on réapprend. J'étais homme au foyer pendant quelques mois, j'ai trouvé ça très très bien comme expérience. Et aujourd'hui, mes enfants parlent anglais, moi également, beaucoup mieux qu'avant. Et en fait, ça permet de mieux connaître son pays et de tester des choses. Le système anglo-saxon, c'est pareil qu'on a tendance à décrier. On parlait tout à l'heure du capitalisme, de l'image des groupes du CAC 40. Bon, des fois, on caricature le système anglo-saxon, mais quand on y vit, on voit que c'est différent. Par exemple, les gens, ils changent facilement du service public vers le caritatif ou vers le privé. Il n'y a pas les mêmes barrières qu'en France. Et donc, en fait, on découvre des choses comme ça qu'on n'imagine pas. Et donc, c'était une prise de risque. Mais je suis extrêmement heureux de l'avoir prise.
Tu as bossé dans le caritatif ?
Oui, j'ai fait quelques mois justement en fin de MBA, en fin de formation, dans une association de l'Est de Londres, ça s'appelle ça un community anchor, donc c'est une ancre de communauté. Ils font du multiservice pour une zone où il y avait beaucoup de gens issus du Bangladesh ou de l'Inde, et à la fois l'association était très intéressante par rapport à ce qu'elle faisait, et à la fois je ne m'y suis pas retrouvé, moi je n'arrivais pas à m'insérer là-dedans, je préfère le fonctionnement d'une entreprise privée, peut-être plus rapide, peut-être plus direct que le fonctionnement caritatif. Je pense que c'est une question de personnalité, je pense.
Et puis, troisième date importante, parce que le temps passe vite, pardon, Luc, mais troisième date importante dans ta vie, elle est macro, elle est économique, elle interpelle sur la capacité à vivre ensemble.
Oui, c'est en 2016, le vote sur le Brexit. Ayant vécu en Angleterre, ce vote-là m'a fait beaucoup de mal, parce que d'une part, ça cassait un peu ce que j'avais connu. Le côté cosmopolite, très dynamique qu'on retrouvait à Londres, il était impacté pleinement par ce vote-là. Et c'était une première étape majeure, de mon point de vue, du populisme. L'année d'après, il y a eu Trump. Moi, je me suis dit tout de suite qu'en fait, on avait créé l'Europe justement parce qu'on ne voulait pas d'une nouvelle guerre en Europe et ailleurs. Et que des populistes comme Nigel Farage poussent les gens à voter contre l'Europe, en mettant de côté les bons côtés de l'Europe, moi personnellement m'a fait mal. Et quand je vois ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, même si c'est pas en lien direct, ça rappelle à quel point on a besoin de cohésion, de mon point de vue, et d'Europe notamment. Ouais.
Fort de cette analyse, à la fois de politique internationale et puis d'une expertise technique et scientifique, à ton avis, de là où tu es, et on terminera là-dessus, quels sont les leviers pour que le monde aille mieux demain ?
Alors, je pense qu'il faut commencer par agir. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'analyser et de s'inquiéter est utile, mais après, il faut agir justement pour faire des choses, et puis commencer par sa sphère d'influence. Donc, il faut commencer autour de soi, par des choses simples, et y aller progressivement. En fait, moi, je crois à l'effet de levier, c'est-à-dire que il y a toujours un moment de bascule, c'est ce qu'on voit dans l'étude de la chute des dictatures. Les dictatures ne s'arrêtent pas quand il y a 100% des gens qui sont hostiles aux despotes. Elles s'arrêtent quand on passe un levier à 5, 10, 15% des gens qui vont commencer à s'opposer à un système. Là, ça bascule. Et donc, moi, je milite pour ça, que les gens fassent des choses à leur niveau et créent au bout d'un moment un effet de bascule.
Belle continuation à toi. Merci, Luc, de t'être arrêté. Merci à Sophie de t'avoir accompagné. On a bien échangé hors antenne. Tant pis pour vous, mais à bientôt.
Merci bien.